passé entre l'ordre de la Grande Mission et la Réforme ? Avec 15 siècles, en tout cas.
Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 15 siècles ?
Eh ben, on a le livre des Actes qui nous raconte un petit peu les premiers missionnaires. Il y a Étienne, il y a Pierre, il y a Paul, il y a Marc, Barnabas, etc.
Puis après, il y a eu des moines, des nonnes, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y en a un qui s'appelait Patrick, avec Boniface, chez Cyril, Méthodius, etc. Si vous faites un peu de recherche historique, vous allez trouver tous ces noms. Et puis, arrivé au XVe siècle, en fait, le christianisme, il n'allait pas très bien du tout. Et il y en a même qui disent que si Luther ne s'était pas réveillé en... Quelle année ? 1517. C'est ce que vous avez dans la fiche.
Si, il y avait trop 1517.
Eh bien, le christianisme, il se serait peut-être arrêté là.
Hein ? Je sais que vous avez...
Après, il est évident que Dieu aurait trouvé une autre solution, mais Luther était certainement une solution pour réveiller le christianisme. Et en même temps, on l'a vu ce matin ou hier ou je ne sais plus quand, il y a Calvin aussi qui faisait son mouvement depuis Genève, etc. Il y a eu un sérieux réveil au XVIe siècle. Et donc, il y a eu une prise de conscience du besoin de diffuser la parole. Hein, c'est aussi lié à l'imprimerie. Tant de Luther et Gutenberg qui a créé l'impression, l'imprimerie, ce qui a permis une diffusion de la Bible et de la parole plus facilement. Donc ça, c'était 1517. Ça, c'était plus difficile. 1792, c'est ce qu'on appelle le début du grand siècle de la mission mondiale. Et là, ça a été une prise de conscience du besoin de partir évangéliser vraiment au loin. Pas seulement autour de là où était le christianisme, mais de partir dans des endroits presque inconnus, hein, la découverte du monde. Et là, on a un homme qui s'appelait William Carey, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, qui était en fait l'inventeur, entre guillemets, des agences missionnaires. C'est lui qui a créé les premières agences missionnaires et qui a inspiré beaucoup d'agences à démarrer la mission. Alors à l'époque, les voyages, ils se faisaient en bateau. Hein. On partait, quand on partait des États-Unis pour l'Afrique, c'était 3-4 mois de bateau. On avait le temps de réfléchir à ce qu'on allait faire en Afrique. Et puis on arrivait sur les côtes et puis on restait sur les côtes parce que si on avait besoin de vivre ou quelque chose, ça revenait aussi par bateau. Et s'il fallait évacuer, on partait plus vite en bateau qu'à dos de, je sais pas quoi, d'âne ou à pied. Donc, c'est la première phase de la mission moderne, ça a été d'atteindre les côtes d'Afrique et de l'Asie. William Carey, il a dit ceci: attends de grandes choses de Dieu et tente de grandes choses pour Dieu. Je pense qu'à l'époque, quand on disait je pars en Chine ou je pars en Afrique, on ne savait pas trop où on allait. Hein. Surtout, on ne savait pas si on allait revenir. Il y a des missionnaires qui partaient, leur malle de voyage, c'était un cercueil qu'ils allaient utiliser une fois sur la terre missionnaire. Heureusement, ça a quand même changé. 1854, c'est une deuxième phase de la mission moderne. L'initiateur, c'est Hudson Taylor. Vous connaissez Hudson Taylor ?
Quelqu'un a trouvé ?
J'ai pas mis
c'est pas évident. Ouais. Hudson Taylor, donc lui, il est parti en Chine. Hein. Il a démarré la mission à l'intérieur de la Chine. Et lui, sa vision, c'était maintenant, il faut pas rester sur les côtes, il faut aller à l'intérieur des terres. Les côtes d'Afrique et d'Asie étaient plus ou moins atteintes, mais il y a l'idée d'aller voir un petit peu ce qui se passait à l'intérieur. Et là, de nouveau, c'était tout aussi l'inconnu que de partir sur les côtes. Et donc, il a initié ces missions qui sont parties à l'intérieur des pays. Il y a la mission à l'intérieur de la Chine, il y a eu la mission à l'intérieur du Soudan, il y a African Mission, c'est la mission qu'on représente, qui est aussi qui a le mot Inland dans son nom, c'est aussi pour ça à l'intérieur de l'Afrique. Après, il y a eu une petite pause pendant les guerres mondiales, certainement qu'il y a eu des efforts missionnaires, mais qui ont été évidemment ralentis par les guerres. Et en 1974 ou 1974, suivant d'où vous venez, Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis cette date là dans la convention de Lausanne. Vous avez entendu parler de cette convention? Non, il y a eu un grand rassemblement chrétien et on a pris des grandes décisions. On a écrit une charte. Et il y a un homme pendant cette conférence, qui s'appelle Ralph Winter, qui a présenté les nations comme n'étant pas des nations politiques. Hein. Aujourd'hui, quand on parle de nations, c'est la France, c'est la Suisse, c'est la Belgique, c'est l'Angleterre, les États-Unis, etc. Il a dit que quand la Bible parle de nations, elle ne parle pas de pays politiques, mais elle parle d'une tribu, d'une ethnie, d'un groupe de personnes qui partagent une même culture, une même langue. Mais pas forcément qui vivent... Enfin, ça peut être plusieurs... Il peut y avoir plusieurs tribus qui vivent dans le même pays. Prenez la République démocratique du Congo, il y a 400 tribus dans ce pays. Alors, c'est pas parce qu'à Kinshasa, ils ont entendu l'Évangile que toutes les tribus auront entendu parler de l'Évangile, et surtout pas dans leur langue. Ok. Donc, ça a été le démarrage des missions vers les ethnies, et c'est la troisième phase maintenant, et on est en plein dedans, c'est-à-dire que l'objectif des missions, c'est d'atteindre les différents peuples de la Terre. Le chiffre suivant... C'est à peu près, hein, c'est pas un chiffre exact. Ouais, population mondiale. Qui veut un chocolat?
Là, je non, pas de chocolat,
c'est
ça,
trop
non.
facile.
Non.
7 milliards.
Allez, si heureusement... jamais eu de chocolat avec un café, on n'a pas encore eu. Hein. Promis. Hein.
Et celui-là? Quelqu'un a trouvé celui-là?
C'est le nombre de
chrétiens. Tu veux un chocolat? Tu veux répondre à la question? Non, c'est pas le nombre de chrétiens. Ouais. C'est la population des gens qui sont dans ce qu'on appelle les peuples non atteints. Vous savez ce que c'est un peuple non atteint? Un peuple non atteint, c'est un peuple qui n'a jamais entendu parler de l'Évangile. Où on a quand même mis... Il a fallu définir ça, on dit que c'est un peuple où il y a moins de 2% de chrétiens. Et où il n'y a pas une église qui est capable d'évangéliser sa propre tribu. Okay? Donc ça c'est vraiment... personne n'a jamais rien entendu de Christ jusqu'à quelques chrétiens qui sont parmi eux. Okay? Donc il y a encore 3 milliards de personnes qui vivent dans des tribus qui n'ont jamais entendu parler de Christ. Celui-là...
Nombre de missionnaires?
Non. Non, il y en a un peu plus quand même.
Juste le nombre de peuples sur la Terre.
Alors, on pourrait trouver différents chiffres. Mais celui-là, il parle de peuple et il compte. Un peuple qui est partagé sur deux pays compte deux fois. C'est-à-dire, donc, on arrive à 16 000. Il y en a qui vont dire qu'il y en a 10, 11 000 parce que justement, un peuple répandu sur deux pays est compté comme un seul peuple. Donc là, on fait cette différence-là. Vous ne pouvez pas dire que je vous ai donné des faux chiffres. Et donc celui-ci?
Le nombre de langues?
Non. Alors on compte... Ouais, je ne sais pas combien il y a de langues. Mais ça, c'est le nombre de peuples non atteints. Parmi ces 16 000 peuples, il y en a 6 700 qui ne sont pas atteints. Ok? Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Pour la mission? On n'a pas fini, hein. Bon, on continue. Pourquoi on n'a pas fini la mission? Vous connaissez ces deux versets? Ce sera mieux que le concert de ce soir. Ça, c'est le concert qu'on aura au ciel avec tous les chrétiens réunis. Et ces deux versets parlent de cette adoration qui se fera avec des gens de toutes les tribus, de toutes les nations. Donc on peut déduire de ça qu'on ne sera pas au ciel tous réunis tant que toutes les nations n'auront pas entendu parler de l'Évangile. Okay. Donc ça c'est un petit peu l'objectif, le point final de la mission en fait. On peut penser que quand toutes les nations auront entendu l'Évangile, on sera arrivé à la fin des temps et on pourra enfin aller adorer l'agneau. Quatre pour un. Ça, c'est pas évident, je vous l'accorde. Un indice, en 1979, c'était 1 pour 1. Donc il y a 30 ans.
ça ne vous dit pas plus. Okay. C'est le rapport entre les chrétiens du Nord, donc États-Unis, Europe, et les chrétiens du Sud, Afrique, Asie, Amérique latine. Donc en 1979, il y en avait un pour un. Il y avait un chrétien au Nord pour un chrétien au Sud. Aujourd'hui, il y en a quatre au Sud pour un au Nord. Ça veut dire que ta mission, elle a bien bossé. Hein. Parce que beaucoup de missionnaires, ces deux derniers cercles, sont partis du Nord pour aller au Sud. Hein. C'était le mouvement de la mission. On est parti du Nord pour aller au Sud. Et aujourd'hui, ben, il y a beaucoup plus de chrétiens au Sud qu'au Nord. Et vous verrez tout à l'heure que ça a quelques implications sur la mission qu'on fait aujourd'hui. Notamment celui-ci, c'est que le champ missionnaire, ça devient la force missionnaire. Les chrétiens qui vont se lever pour la mission, il y en aura toujours au Nord, mais il y en aura logiquement beaucoup plus au Sud. Celui-ci, je pense qu'il y en a qui connaissent. Hein ? C'est Windows. Une fenêtre de 1040. Je vous la montre là-dessus. Ça, c'est une carte assez intéressante. Les points verts, c'est les pays ou les peuples qui sont atteints, qui ont plus de 10% de chrétiens parmi eux. Okay. Ça, c'est les verts foncés. Les verts clairs, c'est entre 2 et 10, je crois. Les oranges, orange-jaune, c'est les oranges, c'est ceux où il y a moins de 2% d'évangéliques, mais il y a 50%, plus de 50% qui se proclament chrétiens. C'est typiquement la France, la Suisse, où on est chrétien de naissance, mais on n'est pas des vrais chrétiens nés de nouveau. Ensuite, il y a les oranges, qui sont là où il y a un effort qui se fait pour la mission. Okay, il y a les missionnaires qui sont parmi un peuple, qui essayent d'annoncer l'évangile. Et les rouges, c'est là où il n'y a rien qui se fait. Il n'y a pas de convertis, il n'y a rien, et il n'y a même pas d'effort fait par les missions pour aller là. Et la fenêtre 10-40, c'est celle-là. Hein. 10-40, c'est les deux parallèles. Latitude, parallèle, c'est pas vrai. Le 10e, entre le 10e et le 40e parallèle. Et qu'est-ce qu'on constate quand on dessine ce rectangle ? C'est qu'il y a pratiquement tous les points rouges qui sont dans ce rectangle. Et au fait, 85% des peuples non atteints aujourd'hui se trouvent dans cette fenêtre des 10-40. Est-ce que vous savez combien d'efforts sont mis par les missions parmi cette fenêtre des 10-40 sur le total des efforts qui sont faits en ressources humaines et en ressources financières? Il y a 1% des efforts missionnaires qui se font dans cette fenêtre. Donc il y a un certain déséquilibre. Alors, qu'est-ce qui change aujourd'hui pour la mission? Il y a plusieurs choses qui changent en fait le paradigme de la mission. La mission n'est plus comme elle était il y a 50 ans. Il y a eu, je vous ai montré tout à l'heure, la proportion des chrétiens. Hein, maintenant, il y a beaucoup plus de chrétiens au sud qu'au nord. Donc, notre rôle en tant que missionnaire va être différent que ce qu'on a fait avant, parce que maintenant il faut qu'on accompagne des chrétiens ou des églises à être missionnaires. Il faut qu'on leur partage nos connaissances qu'on a acquises pour qu'eux puissent devenir des pays qui envoient. Ces pays en rouge ici, tous ces pays en rouge, ce sont les pays à accès fermé. Hein. Vous connaissez ces pays musulmans, bouddhistes, hindouistes, où c'est très difficile de rentrer dans ce pays avec une Bible à la main. Donc il faut qu'on y aille d'autres façons. C'est aussi pour ça que c'est en rouge, c'est parce qu'on ne peut pas y entrer aussi facilement qu'on a pu le faire. Là, on a les points verts. Et puis, une troisième chose qui change beaucoup l'orientation de la mission, c'est les communications aujourd'hui. On se déplace très facilement. Au début, je vous ai dit, un gars d'Amérique qui allait en Afrique, c'était 3 mois de bateau. Aujourd'hui, en une journée, on est là-bas. Hein. Donc on rentre, on traverse, on peut faire des courts termes. Je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui sont allés quelques semaines ou quelques mois en Afrique. Donc c'est facile d'aller en mission pour des courtes périodes. On a les communications, le téléphone. Hein. Tout le monde pratiquement sur la Terre maintenant a accès à Internet. C'est incroyable. En Afrique, vous allez dans les coins les plus reculés, vous verrez un gars avec son téléphone qui peut appeler ou se connecter à Internet. Il n'aura peut-être pas à manger, mais il aura son téléphone.
Et puis il y a maintenant les peuples, au fait, on n'a plus besoin d'aller vers les peuples parce que les peuples viennent à nous. Déjà rien qu'en regardant là, je vois différentes figures qui ne viennent pas d'Europe, hein, qui ont des origines de l'extérieur. Mais si vous promenez autour des villes, il y a des communautés entières de tribus qui sont là, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Asie, qui viennent de partout et qui sont à nos portes. On n'a plus besoin de voyager pour vivre un petit choc culturel et puis annoncer la parole à des gens qui sont qui viennent de loin. Alors les défis qu'on a dans la mission aujourd'hui, alors c'est d'atteindre tous les peuples non atteints, c'est ce qu'on cherche à faire. Beaucoup de missions vont vous parler de ça. Hein. Maintenant on cherche à aller là où l'évangile n'a pas été annoncé, en laissant les églises qui ont été construites, qui ont été implantées, faire le travail de l'évangélisation autour de chez elles, mais nous d'aller vers, d'encourager ces églises à aller vers les peuples non atteints. On est en défi avec l'action des grandes religions. Il y a notamment l'islam, l'hindouisme et le bouddhisme qui ont une certaine mainmise et un certain pouvoir sur les peuples et qui sont difficiles à pénétrer. On se bat contre les faux enseignements. Vous avez tous entendu parler de l'évangile de la prospérité, par exemple, qui fait des gros ravages dans le sud, dans différents continents. Il faut se battre contre ces enseignements-là parce qu'ils ne sont pas du tout bibliques et à l'honneur de Dieu. Il y a un manque d'enseignement théologique, et là c'est un des rôles qu'on peut avoir aujourd'hui dans la mission, c'est d'aller enseigner la théologie au sud. Et la mission de plus en plus, c'est la mission multiculturelle et multiethnique dans les équipes missionnaires. Beaucoup de missionnaires aujourd'hui vous diront que le plus gros choc, ça n'a pas été de se retrouver perdu dans une tribu en Afrique, mais c'était de travailler avec des Américains, avec des Anglais, avec des Australiens, avec des Japonais. Parce qu'on ne s'y attend pas. On ne s'attend pas à avoir des difficultés avec ces gens-là parce qu'on dit voilà, on a une culture occidentale, on va se comprendre, et en fait, même différent. Même avec des Allemands qui ne sont pas très loin d'ici, ça peut être difficile. Pas à cause des Allemands, mais enfin, ça vient des deux côtés, quoi. Hein. Ce n'est pas une critique pour les Allemands. Qu'est-ce que j'ai après ? C'est pas ça. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, on vit vraiment un moment stratégique dans la mission. C'est passionnant parce qu'on a plein de choses qui se passent et il y a plein de choses possibles. On peut vraiment partir dans toutes les directions, travailler dans tous les métiers, donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire et c'est assez passionnant de voir toutes les possibilités. On vit les changements de ces paradigmes que je vous ai expliqué tout à l'heure et ça fait, voilà, la mission prend un nouveau visage et on peut participer à ce nouveau visage, on peut construire ce nouvel engagement de la mission. Il y a tout un travail à faire dans ce qu'on appelle l'accès, les pays à accès créatif, c'est-à-dire où il faut avoir de l'imagination pour savoir comment pénétrer dans ces pays. On ne pourra jamais y aller avec un visa missionnaire, on ne pourra même jamais y aller avec une Bible dans la poche, donc il faut qu'on trouve un moyen, comment est-ce qu'on fait pour aller parmi ces gens, leur parler de Christ sans se faire jeter du pays après 2 semaines. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ma part. Maintenant, on va essayer de vous faire découvrir un petit peu ce que certains missionnaires ont vécu, des expériences à court terme, pour vous compreniez un petit peu ce que c'est de partir en mission.
Alors, on a 2 personnes très spéciales parmi nous cet après-midi, Céline et Marc, qui vont raconter un petit peu. Et Céline est rentrée il y a une semaine de 3 mois au Tchad, et elle a accepté de nous dire quelques mots sur cette expérience. Donc, tu peux t'asseoir là, Céline. Juste que je retrouve ma feuille. Toi, tu te présentes, je sens des mots de tout vient. Ouais.
Donc, je m'appelle Céline, bonjour à tous. Je viens de Paris et j'ai fini ma formation d'infirmière l'année dernière et je suis partie au Tchad pour 3 mois de janvier cette année, de janvier à une semaine. Donc, j'arrive là depuis une semaine du Tchad et voilà, je suis partie avec AIM et grâce à Géline Myriam.
Bon, c'est pas pour ça qu'on la présente du tout. Mais... bon. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, déjà, une chose super importante pour partir en mission, c'est de faire cette rencontre dont on a parlé ce matin, la rencontre personnelle avec Dieu. Donc, pour toi, comment la rencontre avec Dieu et puis l'idée de la mission se sont mis en place ?
Donc, là, j'ai 21 ans et j'ai fait une rencontre. Je viens d'une famille chrétienne, j'ai fait une rencontre personnelle avec Dieu vraiment à l'année de mes 18 ans. Et j'avais déjà entendu un peu la mission, mais vraiment de loin, je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Mais la mission, c'était quelque chose de loin. Mais de ma conversion au temps où je suis partie, c'était vraiment très court, parce que dès que j'ai eu l'occasion en fait, de partir avec ma formation d'infirmière, je suis partie.
Et alors, pourquoi le Tchad? Comment tout ça? Comment tu as pu atterrir dans un hôpital au Tchad?
Faut compter, je pense, moi j'ai commencé l'idée de vouloir partir faire à l'étranger pour visiter un pays à l'étranger. Après, je me suis dit pourquoi pas utiliser ma formation. Ça, c'était comme l'année dernière, février 2016. Je voulais vraiment, c'était l'année aussi où je me suis convertie, où je me suis baptisée. Du coup, je voulais vraiment juste partir à l'étranger, mais je me suis dit je peux pas partir pour si longtemps sans aller dans une église et tout ça. Et du coup, j'ai tapé sur internet infirmière chrétien à l'étranger, des choses comme ça. Je suis tombée sur pas mal de choses, sur d'autres missions et tout ça. Je suis aussi tombée sur IEM. Après, j'ai beaucoup discuté avec mon pasteur, avec ma famille. Et ça s'est fait progressivement. Et je pense que voilà, en un an, on a un peu construit le projet. Il a beaucoup changé aussi, il s'est beaucoup modifié parce que je vous oublie pas. Parce que il y avait plein de détails, je ne savais pas si je partais pour combien de temps, je ne savais pas où j'allais, avec qui, je connaissais pas les missionnaires là-bas. Mais le projet au Tchad, c'était vraiment. C'est comme si Dieu met une idée dans ton cœur, t'as une idée comme ça, on va partir à l'étranger. Et après, les choses font que ça s'est mis en place. Il y a les portes qui se sont ouvertes, c'est un peu comme ça.
Ok. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter deux choses qui t'ont marqué ou interlocuté ou surpris au Tchad?
Déjà, ce qui était très surprenant, forcément, il y a eu pas mal de chocs culturels. Je pense que quelque chose qui m'a pas mal marqué, c'était la corruption, parce qu'au Tchad, c'était comme... C'est pas que tous les jours je vivais la corruption, mais il y avait quand même des 2-3 expériences comme ça où t'en as marre. Donc ça m'a vraiment marqué. J'étais contente de rentrer. Mais surtout ce qui m'a vraiment touchée là-bas, c'est leur accueil. Ils ont un sens de l'accueil incroyable, les Tchadiens. Leur générosité, le temps passé avec eux, ils sont très ouverts, ils s'intéressent à toi, ils veulent savoir de toi, ils veulent. Apprendre plein de choses et vraiment j'ai tellement aimé ça. J'aime aussi la vie communautaire, leur simplicité de vie, parce que c'était pas grand chose mais c'était beaucoup de joie en fait d'être parmi eux, et surtout juste de vivre différemment ma vie spirituelle, parce que du coup je viens de Paris, mais en France c'est tellement laïque partout, les écoles, à la fac et tout ça, et là-bas la spiritualité c'est partout en fait. On sait pas la sincérité de cœur, mais la spiritualité c'est partout, et ça m'a vraiment encouragée à me dire oui, si j'ai envie de parler de ma foi quand je rentrerai en France, il n'y a rien qui m'empêche de parler de ma foi, et ça m'a beaucoup aidée.
T'as un souvenir précis à nous raconter?
J'ai plein de souvenirs, mais si je devais un peu illustrer leur hospitalité ou quoi, par exemple on devait... Bon, là-bas, il y a beaucoup de cas de deuil, des choses comme ça. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est aller les voir, leur rendre visite chez eux pour leur montrer le soutien et que voilà, on a appris la nouvelle, on veut simplement les soutenir. Donc, on était allé visiter un de nos gardiens de la station, parce qu'il y a deux gardiens, un Tchadien qui avait perdu sa maman. On est allé le visiter et puis on entre et puis nous. Toujours, ils sont disponibles, on ne prévient pas avant, on entre en visite. Et il nous dit viens, on va venir, on va te proposer un verre d'eau et tout ça. Et en fait, un verre d'eau là-bas, ça peut se transformer en un repas, parce que comme 30 minutes après, ils nous ont amené un repas avec de la viande, des pâtes, des choses comme ça. Et j'étais vraiment pas prête à manger, mais...
Il faut manger.
Il faut manger. Il faut les honorer, en fait. Il faut leur communiquer qu'on est reconnaissant. Et voilà, donc un verre d'eau là-bas, ça peut être un repas. Et ça, c'était vraiment drôle pour moi, parce que j'y croyais pas. Je me disais, non. Mais en fait, si, c'est vraiment vrai.
Et alors, à travers toute cette expérience, mais même avant la préparation, tout ça, est-ce que ça t'a permis de découvrir aussi des nouvelles choses sur Dieu?
Oui, moi, clairement. En fait, Dieu, je baigne dedans depuis que je suis toute petite parce que j'allais à l'église, à l'école du dimanche et tout ça. Mais donc, j'ai vraiment eu une rencontre personnelle quand j'avais 18 ans. Je me suis baptisée en novembre dernier. Lire ma Bible, c'était tout nouveau aussi. J'ai tellement pas fini, j'ai encore tellement de livres à lire dans la Bible. Mais en fait, juste de ce voyage dans un contexte à l'étranger, ça m'a beaucoup aidée simplement de voir que, oui, il y a le Dieu comme on connaît en France, comme on expérimente au quotidien, mais il y a Dieu aussi avec tout. Par exemple, il y a quelque chose, je me suis dit, Dieu, il comprend toutes les langues, toutes les ethnies, tous les patois. Moi, j'ai eu quelques cours d'arabe, tchadien, quelques cours de bambaï, et déjà, j'avais du mal. Et je me suis dit, Dieu, il entend toutes nos prières, il comprend toutes nos prières, c'est même lui qui les a créées. Donc ça, c'était fou de me dire... En fait, j'ai vraiment vu la puissance de Dieu, à quel point il est international, quoi. Et voilà, enfin, je sais que j'aurais pas pu me rendre compte de tout ça, de France, même si on me l'avait raconté, mais de le vivre, c'était vraiment... oui, ça m'a beaucoup aidé. Et juste voilà, pour dire que quand j'ai préparé ce projet, j'étais vraiment pas très sereine. Même, je me rappelle la veille de prendre l'avion, j'étais pas sereine, parce que je savais vraiment pas dans quoi j'allais. Mais une fois dans l'avion, je me suis sentie bien. Et juste pour dire que du coup, en revenant, en étant entière, je suis en bonne santé et tout ça, juste de dire que vraiment qu'on prend le risque de lui obéir, parce que je pense que c'était comme il m'a donné cette idée et puis je lui ai dit bon ok, je vais y aller, je te fais confiance Seigneur, et vraiment il m'a réservé plein de belles surprises, plein de moments de joie et tout ça. Donc vraiment c'est un risque entre guillemets, mais après c'est trop de récompense, on va dire.
Est-ce que tu as aussi appris des nouvelles choses sur toi, sur ta personnalité, puis peut-être comment cette expérience va impacter maintenant ton avenir, quoi? Qu'est-ce que tu fais, tout ce que tu as vécu?
Moi, personnellement, pour ma vie, ça m'a beaucoup marqué que j'avais vraiment besoin de la prière. C'est vrai qu'avant, je priais un peu comme ça. Je ne priais pas énormément, en fait. Mais là, cette expérience m'a vraiment poussé à me rendre compte qu'on a besoin de prier tout le temps. Parce qu'on dépend vraiment de lui partout, parce que forcément là-bas j'avais plus peur pour un rien que pour sortir, pour aller au marché, c'était des appréhensions et tout ça, donc c'était beaucoup de prières. Mais je voulais vraiment garder cette vie de prière ici aussi en France, donc voilà, vraiment la prière. J'ai aussi appris comment je gérais mes frustrations voilà, à l'étranger, et voilà, j'ai vraiment beaucoup appris sur que Dieu, il nous... en France, n'importe où dans le monde, il est avec nous, il nous suit, il prépare toutes choses avant nous, et le besoin de prier tout le temps et de compter sur lui, ouais, c'était vraiment bon.
Ok, merci infiniment d'avoir partagé ça avec nous. Merci. On peut l'applaudir, hein? Et maintenant j'ai invité Marc à nous rejoindre. Alors là ça va être un petit peu particulier. Parce qu'en fait, Marc, ce n'est pas le vrai Marc. En fait, il a le même nom, mais ce n'est pas lui. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que le vrai Marc qu'on va rencontrer aujourd'hui, il habite aux États-Unis. Et il a été faire une expérience au Lesotho. Et c'était un petit peu compliqué de venir aujourd'hui pour lui ici. Mais on trouvait que son expérience était super passionnante, quoi. Et du coup, on a décidé qu'on allait faire ça un petit peu comme un roleplay, quoi. Donc, Marc va prendre le rôle de Marc. Voilà.
Bonjour, je suis le sosie de Marc.
Et ce Marc-là parle beaucoup mieux français que le vrai Marc. Donc, on va vraiment faire comme si c'était le vrai Marc, d'accord? Vous avez compris, c'est bon?
Je suis le vrai Marc.
Voilà. Donc, Marc, c'est super sympa que tu aies pu nous rejoindre aujourd'hui.
Merci.
Pour cet atelier donc, sur la mission. Et est-ce que tu peux nous dire alors comment tout ce projet mission a commencé pour toi?
Bien sûr, alors, moi aussi, ça a commencé par une expérience personnelle avec Jésus. J'ai grandi aussi dans une famille chrétienne. Mes parents vivaient la foi chrétienne authentique. Et ils enseignaient aussi à la maison, l'éducation, tout était vraiment chrétien. Mais comme beaucoup dans les familles chrétiennes, c'est pas parce que je suis dans une famille chrétienne que je suis aussi chrétien, et j'ai eu une période de grands doutes, et surtout l'accent parle bien quand même.
On peut parler normal, hein. C'est bon. Allez, on va l'applaudir parce qu'il parle très bien le français américain. On peut parler français.
Alors j'ai eu des grands doutes,
ouais.
C'est un don subi. J'ai un don de langue. Et donc j'ai eu des doutes sur la bonté de Dieu finalement. Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu est bon pour moi également? Et donc il y a toute la période entre 16 et 20 ans où j'ai arrêté de prier. Je me suis carrément détourné de Dieu et puis je voyais pas la bonté de Dieu en quoi que ce soit. Mais Dieu a mis sur mon parcours des amis et des personnes qui m'ont accompagné aussi dans cette période de doute. Et Dieu m'a montré finalement à travers ses amis qu'il a mis sur ma route que c'était un Dieu qui était fidèle. Et il m'a ramené à lui. Et alors que pendant toute mon enfance finalement, j'ai entendu parler de Dieu et tout ça, à ce moment-là, j'étais prêt à répondre oui à l'appel que Jésus me donnait. Et donc, je l'ai accepté à ce moment-là comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, voilà, vers 20 ans comme ça.
Donc, tu as fait cette rencontre décisive. Et entre ce moment où tu as su que tu étais devenu enfant de Dieu, et puis l'idée, le projet de partir alors en mission, comment tout ça s'est passé?
Comment ça s'est passé? Alors, si je me rappelle bien, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai vraiment eu ce sentiment que Jésus me préparait pour quelque chose de spécial. Mais j'avais aucune idée pourquoi. Donc, à cette époque, je travaillais comme conseiller, probablement aumônier, dans une université où je travaillais avec des étudiants. Et j'étais amené à rencontrer différents étudiants aussi de milieux internationaux. Et j'étais très... je commençais à me poser des questions par rapport à comment Dieu arrivait à toucher ces différents peuples, ces différentes nations, ces étudiants qui venaient, qui se posaient des questions et tout. Et j'étais surtout impressionné par le fait de me dire, mais comme Céline a dit, Dieu parle toutes ces langues différentes, il parle le swahili, il parle le chinois, il parle toutes ces langues qui existent et il se révèle à travers sa parole à ces différents peuples. Et dans Apocalypse 7, on voit donc cette foule nombreuse qui se trouve au ciel. On est tous ensemble, de toute langue et de toute nation différente, différents peuples. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais il y a des gens qui sont là dans l'Apocalypse, on voit ces personnes, mais elles n'ont pas encore entendu parler de Dieu. Et tout ça, ça remuait mon cœur. Ça travaillait dans mon cœur et j'ai eu cette envie de pouvoir contribuer aussi à pouvoir apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre.
Alors, tu as eu cette pensée qui s'est développée petit à petit. Puis du coup, comment tu as su qu'un jour, c'était le moment de te lever et de partir, vu que tu es parti, finalement?
Ah ça, c'était plus compliqué. Hein. Alors, franchement, je me rappelle, c'était pas... Alors, déjà, c'est une question difficile que tu me poses là, parce que Dieu, il appelle toute personne de façon très différente. Et moi, pour ma part... j'étais vraiment attentif à la voix de Dieu. Je voulais faire vraiment le plan de Dieu pour moi. Je voulais pouvoir être à son service et je m'attendais à ce que Dieu me parle de façon très claire sur mon appel. Je m'attendais, peut-être à des circonstances favorables en tout cas, mais je m'attendais à ce que Dieu me parle peut-être en me disant « Oh Marc !» fidèle et bon serviteur. Demain, tu iras dans cette nation auprès de ce peuple-là et tu leur parleras de moi. Mais il n'y a rien eu de tout cela. Et comme cet appel ne venait pas et ce n'était pas clair pour moi et tout, j'étais comme paralysé, je ne savais pas quoi faire. Et finalement, je restais là. Sans bouger parce que je voulais pas faire quelque chose qui n'était pas sa volonté, si tu vois ce que je veux dire. Et du coup j'étais bloqué et puis je me suis rendu compte que le fait de pas savoir et de pas avoir de choses très claires finalement m'empêchait d'avancer. Donc j'ai prié pour ça et un jour dans une église Il y a un verset qui m'a frappé, c'est justement le verset qu'on a dit tout à l'heure, c'est « Allez et faites de toutes les nations les disciples ». Et à ce moment-là, j'ai réalisé que ça, c'était la volonté globale de Dieu. Sa volonté, c'est de faire qu'on aille dans le monde, ben là où on est, on fasse de toutes les nations les disciples. Et que finalement, je n'avais pas besoin que Dieu me dise en particulier ben toi, tu vas travailler avec ce peuple-là précisément, mais que Dieu me donnait aussi cette liberté, cette responsabilité peut-être de faire aussi la démarche dans le cadre de cette volonté qui est d'atteindre les peuples. Et donc je suis allé me renseigner auprès sur internet pour voir les différentes missions qui travaillaient parmi ces peuples non atteints. Et je suis tombé sur le site de AIM International, qui est donc votre organisation. Et on m'a présenté un projet un peu fou parmi les bergers dans les montagnes du Maluti. Est-ce que vous savez où se trouvent les montagnes du Maluti? Non, moi non plus, je ne savais pas. On va voir une vidéo, ça se trouve au Lesotho, et j'ai passé 2 ans là-bas.
Donc la vidéo qu'on va voir maintenant, c'est la vidéo que Marc a vue qui présentait le projet dans lequel il allait s'engager. D'accord? Je m'enlève comme ça. Déplacez-vous si vous ne voyez pas grand-chose.
Ok, t'as neige en Afrique.
Suite de son histoire, un tout petit mot sur ces bergers. On les appelle aussi les Balizana. Et en fait, dès l'âge de 6 ans, souvent, on les envoie dans les montagnes. Vous avez vu, c'est assez haut, hein, pour veiller sur les troupeaux. C'est pas leurs troupeaux, c'est les troupeaux des riches propriétaires des vallées. Alors, non seulement ils quittent leur village, ils quittent leurs églises, ils quittent leur maison. Ils vivent là-bas en complète autarcie, comme des nomades. Et donc, ils sont super isolés. Donc, c'était déjà un défi pour partager l'évangile avec eux, c'est qu'ils sont très loin et très isolés et qu'ils sont nomades. L'autre chose, c'est qu'ils sont initiés et tous ces bergers, ils sont porteurs de l'autorité spirituelle pour établir le lien entre les esprits des ancêtres et le peuple du Lesotho. Et donc, bon, c'est de la sorcellerie, on traite là avec des puissances qui sont très violentes et très dangereuses. Et du coup, les gens des vallées, ils les craignent et ils les évitent. Donc, ils sont vraiment complètement mis à part. Il y avait déjà eu des missionnaires qui avaient essayé de leur partager l'évangile, mais à cause du combat spirituel incroyable, parce qu'ils sont vraiment porteurs de la puissance du diable dans ces montagnes, et du fait qu'ils soient nomades et illettrés, en plus, parce qu'ils partent dans les montagnes, ils ont 6 ans, 8 ans, ils apprennent, ils vont pas à l'école, du coup, ils ne peuvent pas non plus lire la Bible. Le Lesotho, en général, est un pays très chrétien, mais ces bergers étaient vraiment un peuple qu'on n'arrivait pas à atteindre. Et d'où cette idée un petit peu folle de recruter quelques gars qui iraient vivre avec eux. Parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que le seul moyen de vivre l'amour du Christ pour qu'ils soient reçus par ces jeunes, c'était de partager leur quotidien. Mais leur quotidien, c'est hyper difficile. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont recruté une équipe. Donc, c'était que des gars qui partaient dans la montagne avec eux 3 semaines, qui vivaient complètement comme eux. Donc, ils avaient une couverture, une paire de bottes, habillés comme eux, quoi. Et il faisait froid. Et ils avaient leur petite cahute en pierre et ils les suivaient avec les troupeaux. Et une fois par mois, ils descendaient dans la plaine pour un peu manger comme il faut. Enfin, Marc va nous en parler plus tard. Et puis, se restaurer. Et puis, ils repartaient dans les montagnes, quoi. Donc, c'était vraiment... Donc, on vous a parlé de Timo, c'est une formation qui se fait sur le terrain en mission. Et celle-là, on l'a appelée la Timo de l'extrême parce que c'était vraiment hyper difficile. Mais ça, Marc va nous le raconter. Donc, on va continuer avec Marc. Donc, Marc, comment t'as réagi quand t'as vu cette proposition-là?
Bah alors, quand j'ai vu cette proposition, je me suis dit, bon, bah, je signe hein, et j'y vais. Et une fois que j'y étais, j'avais vraiment la sensation que c'était là où Dieu m'avait voulu. Et voilà quoi.
Ok, donc on va revoir un film maintenant, le vrai Marc, qui nous raconte, après une année dans les montagnes, comment est sa vie là-bas.
Actually been a lot of highlights this year. It's been a really good year serving in Lesotho. But I can think of one specific instance where I really felt like I belonged in the community. And that's when I was enjoying some time playing music with shepherds. And we were in a circle with several different instruments, singing, playing, dancing. It was just one of those moments where I felt like I was actually part of this new community and part of this new culture.
Some of the best successes and joys on the team have been their integration to the shepherd community. They've actually learned from the shepherds, they sound like shepherds, they live like shepherds, and the shepherding community have accepted them to the point where they treat them like their own, they boss them about. It's good news, and I think they're really earning the opportunity to share the gospel, and when they share it, they've actually earned the right to be heard, and that's good news.
The thing I enjoy the most is when in the evenings shepherds come by. If we're in the cattle post, they come by to our little hut for tea, or if we're outside, we can cook the tea outside and then we sit around the fire and talk or sing or dance or whatever. And that's a lot of fun, and it's neat to see that we have that connection with them pretty much every evening.
There have been a lot of struggles too. At first, it was food, food, food all the time. I was really struggling with our diet. I was really struggling getting enough protein in our bodies to be able to continue to operate at a high level. So I had to adjust kind of to living my life a little bit more simply and with a little bit less energy from day in and day out.
I think that's been one of the biggest challenges is to keep focused on serving the Lord, being gospel focused.
even when your body is telling you that you can't do this anymore. And I've been really impressed with how much effort and how much hard work these guys put in to serving Christ, even when they don't feel like it or want to. Some days when I'm discouraged or things are going rough, then you notice the beauty of the landscape or the little wildflowers that are popping up everywhere around the pastures, and just remembering that God is taking care of them. He said he his eyes on the sparrow, and he takes care of the lilies of the field. And those little things reminded me that God is with me. He's taking care of me, even if I don't necessarily see it all the time or know it. I can still have faith that he is.
Juste encore un détail, quand Marc parle de la nourriture, en fait, ces bergers, ils mangent matin, midi et soir une sorte de polenta. En fait, c'est de la farine de maïs qu'ils mettent dans l'eau bouillante, mais il n'y a pas de sel, il n'y a rien. Matin, midi, soir, tous les jours. Et de temps en temps, quand une bête va pas très bien, ils pouvaient la tuer, la manger, mais ils la mangent jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc, ça faisande, et puis, donc les trois premiers jours, quoi, c'est sympa parce qu'ils avaient enfin des protéines. Mais au bout d'un moment, vous voyez, c'était un petit peu moins... voilà. Donc, ça a été un super défi pour toute l'équipe de vivre ça au quotidien, quoi, jour après jour. OK, mais Marc est là ? Il a survécu ?
Oui.
Je me suis rasé. Je me suis parce que c'est plus propre.
Alors, maintenant, Marc, pour toi ?
Ben, maintenant, ben, je suis là actuellement, mais sinon, je suis rentré aux États-Unis depuis quelques mois, après avoir passé 2 ans dans les montagnes avec les bergers. Et je me prépare à repartir de nouveau, mais dans un projet qui est complètement différent. Je pars à nouveau avec la même organisation. Comme je suis photographe de profession, je vais partir au Kenya, et puis avec une équipe là-bas qui travaille dans tout ce qui est multimédia, dans l'objectif de faire des vidéos comme celles qu'on a vues, pour pouvoir informer le grand public aussi et pouvoir transmettre la passion de la mission.
OK. Ben, merci infiniment, voilà. Marc, d'avoir été avec nous. Oui. Merci d'avoir partagé tout ça. On peut l'applaudir. Hein.
C'est moi ?
Voilà, non, c'est bon. Et pour terminer, donc là, vous avez entendu un peu parler de toute l'histoire de la mission. Vous avez entendu Céline et Marc qui ont parlé un petit peu de leur histoire. Et on s'est dit que peut-être maintenant, vous allez vous dire, et moi alors là-dedans ? Et moi, dans toute cette histoire ? Comment est-ce que je peux trouver ma place dans l'histoire de Dieu ? Et vraiment, ce qu'on aimerait t'encourager, c'est à prendre ta place. Hein, vous l'avez entendu, ça ne vient pas toujours. Parfois, Dieu va parler par une vision hyper précise, mais souvent, c'est une démarche qu'on va faire, qui va nous guider, qui va nous amener quelque part. Et je pense que pendant tout le week-end, vous allez entendre ça, mais vraiment au présent. Mais prends ta place, prends une décision aujourd'hui et n'attends pas. Et j'imagine aussi que vous avez des fois des questions sur l'appel. Quand on parle de l'appel, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Céline, elle a dit un petit peu comment elle est partie au Tchad. Marc, il nous a raconté ce processus que pendant un moment, il est resté paralysé parce qu'il attendait à ce que Dieu lui dise « Marc, fais ci, fais ça ». Et ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas le faire, hein? Parfois, il parle de manière super précise. Mais je crois que souvent, et pour la plupart des gens, c'est plutôt un processus. Et juste peut-être pour vous raconter un peu notre témoignage à nous, brièvement. Donc, quand on s'est mariés, on avait vraiment le désir de servir Dieu, mais on ne savait pas du tout. Donc, on était bien engagés dans nos professions. Gilles avait fait une école d'ingénieur en informatique. Moi, je suis physiothérapeute. On travaillait dans notre église avec les jeunes. Et on se disait, mais Dieu, en fait, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Où est-ce que tu aimerais qu'on aille? Voilà. J'avais grandi aussi dans un milieu chrétien, j'avais rencontré plein de missionnaires. Et c'est vrai que j'avais un petit peu cette attente comme ça d'un jour de me dire, oh, un jour j'aurai des frissons, on va parler de l'Inde, puis je saurais que je dois partir en Inde, quoi. Et puis ça, en fait, ça s'est jamais passé. Juste avant qu'on se marie, quand j'avais fini mes études, un jour, j'avais parlé un peu de mon désir de mission, et un ami qui me téléphone, qui travaille avec la CIM, qui me dit, on aurait besoin d'un physio dans une léproserie dans le désert pour 6 mois, est-ce que ça t'intéresse? Et j'étais partie pour 6 mois. Donc ça s'était passé comme ça. Ça avait été une expérience hyper difficile et en même temps hyper précieuse, je pense, pour moi, de découvrir la mission, d'être toute seule, vraiment perdue. Le Niger dans le désert, c'est pas hyper beau, à part la saison des pluies. Australie. Léproserie, c'était des pathologies que je découvrais, que je n'avais jamais vues en Suisse, évidemment. De rencontrer les missionnaires, parce que les missionnaires, c'est vraiment des gens normaux. Hein. Il y a des super missionnaires, il y a des missionnaires archi nuls, il y a des missionnaires passionnés, il y a ceux qu'on a, mais qui n'en peuvent plus. Enfin, c'est vraiment des gens normaux, quoi. Des fois, on se croit que parce qu'un missionnaire, c'est des gens super bien, super chrétiens. Et ça, moi, ça m'a aidé à voir que non, en fait, c'était des gens qui avaient les mêmes problèmes que moi, mais ils les avaient en Afrique, parce qu'ils travaillaient en Afrique. Ils étaient au service à plein temps pour Dieu, mais c'était voilà, le défi de la marche chrétienne avec Dieu. Et puis, j'en avais rencontré beaucoup qui m'avaient fait envie, parce qu'ils faisaient chaque jour le choix de glorifier Dieu, même dans un contexte super difficile. Et ça m'avait aussi un petit peu rassurée en me disant, mais j'ai pas besoin d'être la super chrétienne pour partir en mission, quoi. Je veux dire, on apprend aussi au fur et à mesure. Et donc nous, un matin, en faisant notre lecture personnelle, on est retombé sur ce verset qu'on a déjà lu plusieurs fois aujourd'hui, de Matthieu 28. Jésus dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et pourtant, donc à cette époque-là, on avait quoi, 25 ans? Donc moi, ça faisait bien, je sais pas, 10 ans que j'avais lu ce verset, quoi. C'était pas la première fois que je lisais. Et tout d'un coup, en lisant, on s'est dit, mais attends, en fait, l'appel, il est là. Il est écrit noir sur blanc. Jésus a proclamé cet appel à tous ses disciples. Ça veut dire, si tu es enfant de Dieu, si tu as donné ton cœur à Dieu, comme on l'a entendu ce matin, cet appel, il s'adresse à toi. Tu n'en as pas besoin d'un autre. Il est annoncé. Ce que Dieu veut de notre part, c'est une réponse. Et c'était un petit peu ce déclic pour nous de se dire, il faut arrêter d'attendre que Dieu nous pose une question, mais il faut lui donner notre réponse, en fait. Et ce jour-là, en fait, on a dit à Dieu, ben ok, voilà, on donne une feuille blanche pour nos vies, guide-nous là où tu veux. On n'avait pas du tout d'a priori pour un pays, pour n'importe quoi. Moi, au fond de moi-même, c'était plutôt partout sauf l'Afrique. Mais après, les choses ont été conduites, c'était en Afrique et c'était génial. Franchement, on a adoré l'Afrique. Donc, ce n'est pas pour dire qu'on va là où on n'aime pas aller. Ça, c'était une ancienne idée qui me rend un peu, qui me hérisse les poils, voilà. Mais voilà, donc vraiment, je vous encourage à vous dire que si vous êtes disciple de Jésus, l'appel, vous l'avez entendu, vous l'avez reçu. Ce que Dieu veut de votre part aujourd'hui, c'est vraiment une réponse. C'est ça qui est super important. Après, il y a deux sortes d'appels un petit peu, enfin deux aspects à l'appel. Marc, il en parlait un petit peu aussi. Il y a un peu l'appel général qui est le cadre. Et cet appel général, c'est à tous les disciples de Jésus, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, vivez l'amour de Christ là où vous êtes. Ça peut être dans votre école, dans votre famille, dans votre église. Ça peut être avec des gens d'une autre culture autour de chez vous, comme ça peut être aux extrémités de la terre. Ça, c'est vraiment le cadre que Dieu nous donne. Ne garde pas l'évangile pour toi, ne garde pas cette bonne nouvelle pour toi. Sois un missionnaire là où t'es, d'accord? Puis après, il y a l'appel personnel et spécifique. Là, il faut se rappeler que chacun d'entre vous, vous êtes complètement unique, vous êtes extraordinaire. Dieu vous a voulu comme vous êtes. Il t'a imaginé comme tu es. Il t'a dessiné comme tu es. Il t'a donné les dons que tu as. Il t'a pas donné ceux que t'as pas, parce que des fois, on aimerait bien avoir les dons qu'on voit chez les autres et qu'on n'a pas. Mais ça, Dieu, il le sait. Donc, à ses yeux, tu es vraiment la personne qu'il veut que tu sois. Et il a pour toi un projet aussi plus particulier, qui va être certainement différent du projet de tes copines ou de tes copains ou de gens que tu connais, ou voilà, Marc, Céline, ou nous, on raconte quelque chose. Pour toi, ça sera certainement différent, mais ça sera génial. Parce que Dieu qui te connaît, qui t'a voulu et qui t'aime, il va t'emmener sur un parcours qui est parfait pour toi. Et donc, et ce parcours-là, il va se dessiner souvent, petit à petit. On commence, le jour je parlais avec Marc-Henri, parce qu'il va aussi partir, Marc-André, excuse-moi. Et il me disait, pour moi, la décision de partir en mission, je dis j'avance. Et puis, je vais essayer une porte. Je ne peux pas savoir si la porte est ouverte avant d'avoir essayé de l'ouvrir, tu vois. Et ça paraît tellement simple, mais c'est vrai. Je veux dire, il faut essayer, il faut prendre des renseignements. Beaucoup, là, on a entendu, ça se fait par Internet. Ou bien tu lis un bouquin, c'est quelque chose qui te passionne. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, ce n'est pas pour rien. Et des fois, ça peut être une semaine, des fois, ça peut être une année, des fois, ça peut être 20 ans. Ça, ce n'est pas grave. Hein. Dieu, il sait ce qu'il fait. Mais si tu sens que tu as ce rêve, que Dieu t'a mis dans ton cœur, vas-y, poursuis-le. Et d'une manière ou d'une autre, il va t'équiper et il va te guider pour qu'un jour, tu puisses vraiment utiliser ce rêve pour toi. Et en priant pour cet atelier et pour ce congrès avec Gilles la semaine passée, Dieu nous a vraiment mis à cœur un mot et un passage pour toi. Et ce mot, c'est aujourd'hui. Et c'est marrant parce que vraiment, c'était genre, mais n'attends pas. T'es pas trop jeune. t'es pas trop ignorant ou ignorante. Aujourd'hui, si t'es convaincu que Dieu t'aime, décide de lui donner ta vie et de le servir, quoi. N'attends pas demain. Il y a ce verset qu'on lit dans Hébreux 3, dans Hébreux 4, puis en fait, qui est une citation dans l'Ancien Testament, qui dit « Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. » Et ce verset, il est dans le contexte du peuple d'Israël, quand ils étaient dans le désert, je pense que vous connaissez l'histoire, Moïse était parti sur la montagne, et le peuple, ils ont commencé à flipper, ils ont dit « Mais Moïse, il a disparu, on n'a pas de Dieu, il nous faut quelque chose, il nous faut une idole, il nous a promis le pays promis, mais personne, il n'y a plus personne pour nous emmener dans le pays promis. » Et du coup, ils ont construit le veau d'or, ils se sont rassurés eux-mêmes, ils ont pris les commandes, ils n'ont pas réussi à faire confiance à Dieu. Et je crois que nous, Dieu, il nous a donné aussi la promesse d'un pays promis. Il nous a donné une mission d'être une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas endurcir notre cœur. Il faut être capable d'écouter Dieu et d'aller de l'avant. Ensuite, je voulais brièvement parcourir quelques idées reçues par rapport à l'appel aussi. Peut-être des choses, peut-être beaucoup, tu vas dire... voilà, c'est vrai que j'avais pensé à ça. Peut-être qu'il y en a certaines qui seront nouvelles. Alors la première, je ne suis pas assez bien. Ou je ne suis pas assez éduquée. Ou je ne suis pas un assez bon chrétien, hein, pour être appelé par Dieu. Et je ne sais pas si tu connais quelques personnages de la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Tous, à des moments donnés, ils ont fait des mauvais choix, hein. Un des personnages dont on parle le plus, qui était un personnage selon le cœur de Dieu, c'est qui ? David. Et David, il a fait quoi ? Il a été meurtrier, il a été adultère, il a apparemment pas super bien géré ses enfants et ses fils, parce qu'après, c'était un peu la gabegie dans sa famille. Donc, c'était de loin pas un homme parfait, David. Mais par contre, il avait une passion pour Dieu, il avait un cœur humble et était capable de se repentir. Et c'est pour ça que Dieu l'a utilisé. Alors, surtout... ne te dis pas je suis pas assez bien, parce que ça c'est un gros mensonge de l'ennemi pour te paralyser dans ta vie où t'es aujourd'hui. Et dis-toi, peut-être j'ai des choses à changer, je dois me laisser transformer, mais j'avance et je vais grandir et je vais et c'est aussi en faisant ces démarches, en voulant apprendre à servir Dieu, qu'on va avancer. Le deuxième, c'est j'ai des doutes. Ça vous arrive d'avoir des doutes? Et alors, en relisant la semaine passée Matthieu 28, donc on lit souvent le verset Matthieu 28, 19. Et le verset 16, donc il est dit, Jésus s'adressa aux 11 disciples qui étaient avec lui. Et le verset 17, et j'avais jamais remarqué ça, je vous promets, certains des disciples eurent des doutes. Donc c'est Matthieu 28, 17. Et j'ai trouvé ça assez fascinant. Il était avec ses 11 disciples. Les 11 disciples, c'est celui qui ont tout vécu avec Jésus. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu que Jésus délivrait des esprits un peu purs. Ils ont vu sa torture, ils ont vu sa crucifixion, ils ont vu sa résurrection. On est d'accord, c'est ses 11 disciples. Et au moment où ils se retrouvent avec Jésus ressuscité, ils ont des doutes. Et alors moi, je me suis dit, ça m'a fait tellement du bien. Je me suis dit, si les disciples, à ce moment-là, ils ont eu des doutes, à combien plus forte raison, moi qui n'ai jamais vécu tout ça avec Jésus, ça peut m'arriver d'avoir des doutes. Et ça ne me disqualifie pas. C'est clair que les doutes, on ne va pas les garder. On va confronter la parole de Dieu, on va étudier et trouver des solutions. Mais ce n'est pas parce que tu as des doutes qu'il faut te sentir disqualifié. Au contraire, il faut que ces doutes ils te poussent à trouver des affirmations dans la Bible pour te faire avancer. Ensuite, je ne sais pas par où commencer. Là, on en a pas mal parlé. C'est vrai qu'on a l'appel, quand c'est qu'il arrive, tout ça. Alors moi, je dis franchement, aujourd'hui, l'appel, il est donné. Ce que Dieu il veut, c'est ta réponse. Mets-toi en marche. Hein. On dit souvent qu'un véhicule qui est à l'arrêt, on ne peut pas le faire tourner. Il faut qu'il avance pour qu'on puisse lui donner sa direction. Et je pense que pour nous, pour discerner la volonté de Dieu, pour discerner ce qu'on veut faire, c'est vraiment un principe fondamental. Il faut avancer. Et quand on avance, Dieu il peut dire, ah ben non, cette porte, elle est fermée. Puis il ne faut pas être vexé, hein, c'est comme ça. Et puis, ah ben non, mais là, continue, cette porte, elle est ouverte. Et puis, il va te faire rencontrer les bonnes personnes. Il va mettre sur ta route des gens qui ont envie de t'aider, de prier avec toi, de te donner des conseils. Des fois, on est tellement surpris, une fois, dès qu'on se met en route, de voir comment Dieu répond. Moi, dans ma vie de prière, j'ai souvent l'impression que c'est comme un trampoline, vous voyez. Si moi, j'essaye de sauter comme ça, je décolle pas beaucoup. Hein. Et puis, si je vais sur un trampoline, pff, je m'envole. Et souvent, avec Dieu, j'ai l'impression, quand je fais moi, mais un petit effort comme ça, qui paraît inutile, Dieu, il l'utilise et puis il le multiplie pour quelque chose d'incroyable, simplement s'il voit dans mon cœur un vrai désir d'avancer. Je n'entends pas la voix de Dieu. Ça, c'est difficile. On en a parlé un petit peu, c'était quoi, hier soir, ce matin ? Je sais plus. On va lire la Bible de voix. Je n'entends pas la voix de Dieu. Alors moi, j'avais une question à te poser. Combien de temps par jour tu passes dans le silence? Moi, quand je vois mes garçons, entre écouter la musique, enfin tout le temps, enfin il y a tout le temps du bruit. Il y a tout le temps quelque chose. Et maintenant, surtout avec l'accès au net tout le temps, on est tout le temps pris dans nos pensées, ou bien on est sur des réseaux, et on a très très peu de moments de solitude, de silence, où Dieu peut nous parler. Ça vous est déjà arrivé de prier, de demander quelque chose à Dieu, puis vous dites « Dieu ne me répond pas ». Ça vous est déjà arrivé? Mais est-ce que tu as attendu que Dieu te réponde? Moi, ça m'est arrivé plein de fois. On prie pour des trucs. Oui, Seigneur, puis on continue la journée. Puis après, je me dis, bah tiens, j'ai même pas pris 5 minutes pour rester en silence devant Dieu et que Dieu puisse me répondre. Quand on fait un dialogue, si je te pose une question, je dis, comment tu t'appelles? Et puis je continue. Bah, je veux pas entendre qui s'appelle. Comment tu t'appelles?
Baptiste.
On est d'accord, ça paraît très simple, hein? Mais avec Dieu, on fait ça tout le temps. On lui pose plein de questions et on n'attend jamais qu'il nous réponde. On ne prend pas le temps dans le silence pour que vraiment Dieu... Et moi, je peux vous dire, ça, c'est une nouvelle discipline que nous, on est en train d'apprendre. Juste prendre du temps dans le silence complet devant Dieu. On lui pose une question précise, simple, et on reste dans le calme, et Dieu nous parle, Dieu nous répond. Et des fois, ça peut être par une image, ça peut être par un verset biblique, ça peut être par plein de choses. Mais Dieu, il a envie de nous parler. Alors, prenons le temps de l'écouter. Apprenons à reconnaître sa voix, hein, parce que des fois on reconnaît plein d'autres voix, beaucoup plus que celle de Dieu, parce qu'on a plus l'habitude de les entendre. Ça revient avec ce qu'on a dit aussi ce matin, approfondir notre connaissance de la parole. Plus on sera rempli dans nos pensées de cette vérité, plus ça sera facile de comprendre ce que Dieu il a envie de nous dire. Je ne suis pas assez solide. Alors vous avez vu dans la vidéo là pour les bergers du Lesotho, c'était un petit peu le défi, est-ce que tu es assez fort pour partir là-bas? C'est vrai qu'il fallait être un petit peu barjo pour aller là-bas. Heureusement, toutes les missions ne sont pas aussi folles, hein, je vous rassure tout de suite. Il y a des trucs tout à fait tranquilles. Mais je pense que si tu te poses cette question, en fait, c'est une super bonne question. Parce qu'il vaut mieux se sentir faible que se sentir trop sûr de soi et trop fort. Des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, moi, je suis super fort, je suis super qualifié, je suis en bonne santé, voilà, je vais partir et je vais faire des super trucs pour Dieu. » Ben, c'est rarement ceux qui font des super trucs pour Dieu. Parce que la logique de Dieu, elle est tout à l'inverse. Qu'est-ce qu'il disait, Paul ? C'est quand je suis faible que je suis fort, d'accord? Et Céline disait, d'un coup, quand tu es dans une autre culture, tu as vraiment besoin de prier parce que tu as besoin de la présence de Dieu. Le truc, c'est ici, en fait, on en a autant besoin, mais on ne le sait pas et on s'en prive. Hein? Donc, se croire faible, c'est une super bonne nouvelle. Si tu te sens faible, c'est une bonne nouvelle. Puise ta force en Dieu et fais-lui confiance que lui peut te fortifier et peut t'équiper pour ce qu'il a pour toi. Un trop grand sacrifice. Alors ça, c'est une bonne question. Hein. Ah, mais si je pars à l'étranger, ben voilà, la vie quotidienne, ça sera super difficile. Ça peut être simplement nourriture, ça peut être les activités, les loisirs, ça peut être laisser les amis ou la famille, son église, ça peut être professionnellement. Hein, y a... On peut se dire, en fait, ouais, je laisse des choses. Et c'est vrai que notre ennemi, il essaye de nous faire croire que de donner sa vie à Dieu, c'est une grosse perte. Alors que toute la Bible nous dit, donner ta vie à Christ, c'est un immense gain. Et nous, seulement à notre niveau, on s'est rendu compte que, bah ouais, c'est vrai, on avait 25 ans, 27 ans, on est parti en Afrique, on a quitté notre profession et tout ça. Et tous nos copains, ils ont fait des carrières et tout ça. Et puis nous, on rentre après 20 ans, on a une vie juste passionnante, on adore ce qu'on fait, on est super heureux. Et eux, ils n'en peuvent plus, ils sont sous les dettes dans leur maison, enfin, la carrière. Enfin, franchement, on a l'impression sur le moment qu'on fait un choix qui est un sacrifice, alors que c'est le plus grand privilège. Gilles vous a un petit peu parlé de tout ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que dans nos pays, en France, en Suisse, en Europe francophone, on est dans les pays où il se passe peut-être le moins de choses. Et on a l'impression qu'on est un peu seul, que le christianisme. Mais dans le monde entier, tu disais combien d'églises par jour ?
3500.
Il y a 3500 églises qui naissent par jour. Alors c'est vrai, quand on est en France, on n'a pas l'impression de ça. Hein? Du coup,
par
mais je...
hein?
Par semaine, voilà. Mais du coup, moi, je vous encourage à partir voir ce qui se passe ailleurs, parce que c'est tellement passionnant de voir que Dieu, il est puissant et qu'il est en train de faire des choses incroyables. Et après, pourquoi pas ramener cet élan dans nos pays, là, et puis faire qu'on ait aussi une dizaine, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de nouvelles églises par semaine en France. Ça serait génial. Donc voilà, Si on devait dire un mot pour qualifier notre expérience, notre vie missionnaire, ça serait vraiment privilégié. Ça serait pas du tout... C'est clair qu'il y a des moments super difficiles. Ça, je vais pas... On va pas le cacher. Hein. Il y a des moments de séparation, des moments d'isolement, d'adaptation. Ça fait partie. Apprendre une langue. Apprendre une langue, c'est une école de vie qui est douloureuse. Hein. Franchement, nous, notre dernier, on était au Rwanda et on a dû apprendre le Kinyarwanda. Et c'est une langue... On l'a appris 10 ans. Après 10 ans, on était... Ouais, on se débrouillait bien, mais on pouvait même pas enseigner en Kinyarwanda. C'était douloureux, quoi. C'est très humiliant. Hein. Ça fait 10 ans que vous parlez la langue, vous arrivez vers quelqu'un, puis il vous dit, ah, j'ai rien compris. Vous êtes là, j'ai passé des heures à apprendre du vocabulaire. Donc, il n'y a pas que des choses faciles. Mais globalement, franchement, donner ta vie à Dieu, te mettre en route pour comprendre sa volonté, c'est un privilège. Ce n'est pas du tout un sacrifice. Et voyez-les comme cela. Et puis, on vous rappelle ce mot aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'attends pas d'être grand, d'avoir fini tes études. Aujourd'hui, tu peux prendre des décisions stratégiques dans tes études, dans ta formation, dans les langues que tu vas apprendre, dans tes relations. Hein? Si tu as une passion pour servir Dieu, ne va pas fréquenter, sortir avec quelqu'un qui n'en a rien à faire. Ça va être douloureux pour tous les deux. D'accord? C'est voué à de la souffrance, mais automatique. Donc, sois intelligent, réfléchis à ça. Si tu étais passionné pour Jésus, mais fais ta vie avec quelqu'un qui est passionné pour Jésus et ça sera génial. Parce que les deux trucs là, non, c'est pas top. D'accord? Donc aujourd'hui, tu as des décisions à prendre qui sont super stratégiques pour toute ta vie. N'attends pas demain.
Pour finir, juste un tout petit peu de pratique. On vous propose quelques attitudes que vous pouvez cultiver maintenant qui vous seront utiles pour n'importe quel engagement chrétien en fait, hein, pour la mission aussi, une attitude de service, le travail en équipe. Donc là, la mission, c'est plus par un missionnaire barbe blanche qui part tout seul, perdu dans la brousse, hein, on travaille beaucoup plus en équipe. On a besoin du travail en équipe pour réussir dans la mission. Entraîne-toi à témoigner autour de toi, parce que c'est ce que tu vas faire quand tu pars en mission. Tu vas vous partager l'évangile. Si tu ne le fais pas ici, tu ne le feras pas beaucoup plus en mission. Hein, ce n'est pas une échappatoire ou c'est pas on va dire, ce sera plus facile quand je serai plus ici. Prends les actions dans l'évangélisation avec ton église. L'église, elle est très importante dans la mission aussi. Hein. En fait, les agences missionnaires, c'est le lien entre l'église et le missionnaire qui est parti. On essaye de garder le contact. Nous, on donne le contexte pour que le missionnaire puisse bien travailler en mission. Mais c'est l'Église qui soutient le missionnaire. Et dans la prière, et financièrement, et dans l'encadrement moral, etc. Et puis la prière, ça doit être en premier, au fait. Ça ne doit pas être en dernier. Une vie de prière, hein. On en a beaucoup parlé aujourd'hui.
Alors, comment t'équiper dès aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux faire pour te préparer? Si Dieu a mis ce rêve de la mission dans ton cœur. Alors formation, ça peut être formation professionnelle, hein, comme ça peut être une formation biblique, des cours bibliques, des séminaires. Vous savez que l'Institut biblique de Genève, il propose, à partir du mois de septembre, il y aura une branche formation transculturelle. D'accord ? Donc c'est une formation de missiologie, donc biblique et missiologique, avec beaucoup d'expérience aussi sur le terrain, avec un prof de stage sur le terrain. Donc il y a des formations qui existent, si vous avez des questions, vous viendrez nous voir après, on peut vous donner plein de détails. Expérience transculturelle, partir pour quelques semaines, quelques mois. Là sur la table, on a plein de prospectives de plein de missions différentes. Beaucoup offrent des courts termes. Donc si tu arrives à mettre ça dans ton cursus d'études ou quoi que ce soit, n'hésite pas. Franchement, ça te fait découvrir comment tu réagis à vivre au loin, ça te fait rencontrer des gens, ça motive ton église locale, c'est que du bénéfice, d'accord? Donc lance-toi dans une expérience transculturelle. Et après, ça peut être aussi autour de chez toi. Hein. Nous, à l'EKM, on aimerait développer des équipes qui travaillent parmi les peuples non atteints, mais en Europe, chez nous. Alors voilà, tout le monde n'est pas appelé à partir, hein, mais tout le monde est appelé à s'engager. Ça, c'est super important. Lis des biographies. Vous avez déjà lu des biographies? Donc des histoires de vie de missionnaires, ça c'est passionnant. On vous a mis une liste là-bas, vous pouvez la photographier ou bien quelques papiers. Essayez de lire des biographies, c'est super inspirant. Des hommes, des femmes qui ont mis leur vie au service de Dieu et à travers qui Dieu a fait des choses fantastiques et franchement, ça te donne envie, quoi. Enfin, moi, j'en ai lu plein et j'arrête pas. Dès que je peux en lire, j'en lis. Je trouve que ça garde en moi la motivation de me dire on n'est pas les seuls fous à vouloir faire de la mission. Il y a eu des gens avant nous qui ont fait pire et après nous qui ont fait pire. Et puis, alors, ça, c'est peut-être une idée un petit peu nouvelle, adopter un peuple non atteint. Donc, on a beaucoup parlé aujourd'hui de tous ces peuples qui restent sur la planète, qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Et s'ils n'ont jamais entendu parler de l'Évangile, c'est pour des raisons précises. C'est-à-dire qu'ils sont derrière des barrières géographiques, politiques, religieuses, et que ça devient de plus en plus dur de les atteindre, d'accord ? Et pour ça, on a besoin de vraiment se mobiliser dans la prière. Et alors, on propose à des groupes ou à des églises d'adopter dans le sens de dire, alors nous, on va prier pour tel peuple. Par exemple, avec notre église à Ménié, là, on prie pour un peuple, un Malagasyère qui s'appelle les Antakarana. Et puis, on a des contacts avec quelques missionnaires qui sont là-bas. Et puis, régulièrement, toute l'église prie pour eux. Et on se réjouit quand il se passe des choses belles, quand il y a des difficultés, on pleure avec les gens là-bas. Ça crée un lien et c'est super puissant pour les gens qui œuvrent parmi ces peuples ou pour les gens que Dieu va envoyer, parce qu'il y a des peuples, il n'y a encore jamais eu de programme d'aller vers eux. Hein. Mais c'est des fois en priant pour eux que ça va se mettre en place. Et là aussi, vous avez des ressources, Joshua Project. Vous pouvez aller online et ils vous présentent plein de peuples non atteints, des nouvelles. Et si vous voulez commencer à prier pour un peuple non atteint, soit vous regardez là, soit vous nous contactez. Nous, on peut aussi vous donner des idées. Vous trouverez à la sortie ce petit dépliant là, c'est les étapes pour la mission. Donc ça résume un petit peu des choses qu'on a dites aujourd'hui, mais ça peut être sympa à garder. Le site C'est ta mission, c'est un site qui parle un petit peu de tout ce qu'il fait pour la mission en francophonie. D'accord ? Donc là, vous avez plein de renseignements. Il y a, je crois, 40 sociétés missionnaires qui font partie de cette l'AFMEF là. Et donc, ça vous permet de prendre des contacts si vous avez envie de partir ou de concrétiser un rêve. Et puis sinon, donc, on vous a parlé, nous, on est IM, mais voilà, on est de loin pas la seule mission qui travaille à l'étranger. Mais si vous voulez prendre un contact, prier avec nous, n'hésitez pas. Et selon votre rêve, selon vos compétences, nous, on peut aussi vous mettre en relation avec d'autres missions, en fait. Pas tous la même chose, on ne travaille pas au même endroit, mais on se connaît assez bien et on essaye de travailler en partenariat, de s'entraider et de vous orienter au mieux selon votre désir. Il y a une feuille où vous pouvez mettre votre nom si vous voulez avoir des nouvelles de la mission dans le monde qu'on va bientôt essayer d'envoyer. On y travaille. Et puis là, alors ça c'est un petit peu plus concret. Si vraiment tu as envie de répondre à cet appel aujourd'hui pour la mission, tu peux remplir ça et nous l'apporter soit à vos marques ou bien on se croise quand tu veux. Et puis on peut garder contact et puis t'accompagner.
C'est pas un engagement, hein, c'est non. Simplement une prise de contact.
Voilà, nous aussi, si on reçoit ça de toi, on s'engage pour prier pour toi, pour prier avec toi et pour t'aider à trouver ta place dans l'histoire de Dieu.